بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Chers frères et sœurs en islam, nous avons lu des versets de la sourate Al-An'am, le verset 17 et 18 précisément, versets dans lesquels Allah Azza wa Jal rappelle à l'être humain que c'est lui Al-Malik, c'est lui le maître, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui dirige, qui contrôle ce dunya, le akhira, c'est-à-dire qui contrôle tout ce qu'il a créé. Et c'est lui qui est au-dessus de ses créatures et rien ne se passe dans sa création sans son ordre, sans son autorisation, sans son aval. Ce sont des versets qui renforcent le yaqin, la confiance en Allah Azza wa Jal, la conviction en notre Seigneur qui est puissant, qui est le maître de l'univers et qui décide de tout ce qui se passe et qui est Al-Hakim, Al-Khabir, qui est sage dans ses décisions et Khabir, qui sait parfaitement tout ce qui se passe dans sa création. Et ce verset, Ikhwani Fillah, et ces versets qui vont dans ce sens, rejoignent le verset de Al-Fatiha, « Wa iyyaka nasta'in ». Et c'est auprès de toi, c'est-à-dire, et c'est seulement auprès de toi que nous cherchons secours et refuge. Les versets qu'on avait vus avant-hier étaient en rapport avec la guidée. Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasulihi. C'était des versets qui rappelaient aux croyants l'importance de développer la foi et de raffermir le iman et renforcer cette foi par les bonnes œuvres. Donc c'était directement lié à Ihdina Sirat al-Mustaqim. Et le verset du jour, c'est le commentaire, la suite, c'est de le prolongement de Iyyaka Nasta'in. Et on se rend compte, Ikhwani Akhawati Fillah, que la sourate Al-Fatiha, c'est réellement la sourate la plus importante du Coran, la plus complète, As-Sab'ul Mathani, c'est la sourate qui résume l'intégralité du Coran et qui donc résume ce que le Coran est lui-même, le résumé de l'intégralité de la Torah, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Moussa, de tout ce qu'Allah a révélé. Ce qui veut dire que le mu'min qui passe du temps à étudier la sourate Al-Fatiha, c'est vraiment une personne bien guidée. C'est vraiment une personne qui va avancer vers le droit chemin sur des bases solides. Pas uniquement une pratique de la religion héritée des parents, des grands-parents, des moulissabs, des fundis, des chouyours, des enseignants. Non, c'est une religion que la personne, certes, aura appris, aura acquis, et aussi par l'éducation, appris, je veux dire, auprès des enseignants. Mais c'est un din que la personne aura comprise et réaliser l'importance, les étapes de l'approche spirituelle. Et bi'idhnillah, celui qui avance dans sa vie spirituelle avec la sourate Al-Fatiha, subhanallah, c'est quelqu'un qui est bien guidé. Et c'est là toute la lutf, toute la clémence et la bienveillance de notre Seigneur à notre attention d'avoir mis à notre disposition, on va dire les outils, hein, c'est un terme, les outils, mais plutôt les versets faciles à mémoriser, l'Al-Fatiha, que tout croyant connaît. Et tout croyant est censé connaître parce que c'est une condition, c'est un pilier pour la salah, pour chaque raka'at, chaque unité de prière. Et ainsi, sachant que chaque musulman maîtrise normalement la sourate Al-Fatiha, il le connaît par cœur, ben, il nous est facile et accessible d'aller à la recherche du sens de Al-Fatiha. Une petite parenthèse, hier, une personne m'a appelé pour une question concernant un verset du Coran. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'on a des personnes, et c'est pas un alim, c'est pas quelqu'un qui a la connaissance, mais c'est quelqu'un qui essaie d'avancer dans la religion. On lui a exposé une situation conflictuelle et il s'est référé immédiatement à des versets du Coran et principalement de la sourate An-Nisa, mais ayant lu la traduction de ces versets, et là aussi c'est important, la personne a compris ses limites. Que certes, et ça on le dit souvent, revenez vers le Coran, étudiez le Coran, mais la personne a su que c'était là une question complexe, qui dépassait, on va dire, un peu ses capacités en termes d'approche des textes religieux. Et la personne a eu, mashallah, elle a pensé à m'appeler, elle aurait pu appeler n'importe qui, n'importe quel alim, pour demander, voilà, expliquez-moi le tafsir de ce verset, est-ce que j'ai eu raison de comprendre et de décrypter la situation que je vis par ces versets ou non. Et je suis allé de son sens que le verset veut dire telle, telle chose. Et mashallah, mon approche et à mon humble avis, c'est la bonne méthode. En plus, la question qui le tracassait, ce n'était pas une question 100% spirituelle. C'était une gestion d'un problème de dunya, mais dont la réponse se trouvait dans le Coran. Et c'est vraiment la réaction du mu'min et du croyant. On revient, on est sorti un peu du sujet, mais le but c'est de sensibiliser chacun à l'importance de la compréhension du Coran, et commençons par la sourate Al-Fatiha. Bidnillah, on a eu l'occasion, bifadlillahi ta'ala wa karamihi, d'étudier et d'enseigner le tafsir de Al-Fatiha, on va dire au tout début des tafsirs, avec Amma yatasa'aloun. Et il y a eu une période, des années plus tard, où on a décidé, c'est à Saint-Clotilde, de faire un daoura, comme on dit, un petit stage intensif de tafsir. Je devais faire, bidnillah, 7 jours de Salat Isha successifs. Et on avait dit, 7 jours, un verset de Fatiha par jour en tafsir. Et, ikhwani akhawati fillah, je vous assure qu'à chaque fois qu'on lit Al-Fatiha, qu'on lit le tafsir, je veux dire, d'Al-Fatiha, et qu'on passe d'un ouvrage à l'autre, d'Ibn Kathir à Sa'di, à Al-Baghawi, à Al-Qurtubi, à Tabari, à Shawkani, à Subhanallah, à Al-Fakhr al-Razi, de grands savants, des grands a'imma, ce sont eux les ulama. Nous ne faisons que reprendre ce que les savants ont écrit et transmis. C'est comme si que nous, tous ceux qui font des interventions, et moi en premier, nous ne faisons que des photocopies de ce que les savants ont rédigé. On prend un livre et on ne fait que lire le tafsir. C'est l'humilité que nous devons avoir, réaliser que nous ne sommes pas des mufassirin. Nous n'avons pas le niveau des grands savants. Mais nous étudions ce que les grands savants de l'islam ont écrit, ont rapporté, ont compris ce que Allah leur a donné la possibilité de comprendre. Et quand je dis qu'Allah leur a donné la possibilité de comprendre, attention! Attention, je ne parle pas d'un fameux ilham min Allah, aucunement. Ce qui est une compréhension totalement erronée, qu'Allah met la science, une science inconnue de le Qadr, ça ne fait pas partie des aqidah de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, non. Mais Allah a yahdi qalba, a guidé le cœur d'Ibn Kathir, et dans le fiqh d'Abu Hanifa, d'Imam Shafi'i, Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, et dans le hadith d'Imam Bukhari, Muslim, c'est-à-dire ce sont des grands savants qu'Allah a choisi et a guidé leur cœur pour qu'ils démarrent un apprentissage de la connaissance religieuse très tôt de leur vie et que Allah a mis de leur cœur une quantité de ilmun nafi', de connaissances profitables et qui nous est, subhanallah, profitable jusqu'au qiyam. Combien de personnes se réfèrent à Bukhari et Muslim? Combien de personnes suivent la religion en appliquant rigoureusement le madhhab de Abu Hanifa, d'Imam Malik, d'Imam Shafi'i? Combien de personnes, subhanallah, comprennent et étudient le Coran en lisant le tafsir d'Ibn Kathir, de Al-Qurtubi, de Al-Baydawi, et ainsi de suite? Ce sont là des faveurs qu'Allah a accordées à cette umma et qu'il n'a pas accordées à d'autres communautés. Hifzul ilmi, la protection de la connaissance religieuse. Pourquoi est-ce qu'on dit tout ça, même si on sort légèrement du tafsir? C'est pour qu'on réalise, ikhwani fillah, nous sommes les héritiers des prophètes. Nous sommes les héritiers d'une connaissance que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a transmis à Abu Bakr, à Umar, à Uthman, à Ali, à Ibn Mas'ud, à Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu majma'in, à Abu Huraira, à Al-Hudhaifa, et ainsi de suite, à quantité de sahaba parmi les messieurs et parmi les dames également. Et à leur tête Aïcha radiallahu anha, qui était la plus savante et auprès de qui beaucoup de sahaba venaient apprendre les masa'il fiqhiyya, les règles de jurisprudence, et ils ont transmis de génération en génération. Et nous, à notre époque, si nous nous contentons d'une pratique de la religion sans se référer à la connaissance religieuse, je le dis très clairement, notre pratique est trop limitée pour qu'elle soit ferme, pour qu'elle soit mukhlis, pour qu'elle soit sincère, pour qu'elle se trouve embellie par le zina, par la beauté des amal ou le khuloub, des actions intérieures. Si je me contente d'une prière que j'ai appris à la madrasa, au maktab, et je prie de cette façon basse, sans aller plus loin, j'aurai une prière qui est, inshallah, acceptée par Allah. Mon pilier de l'islam y est, je l'accomplis, bi-idhnillah, mais je risque de ne trouver aucune saveur dans cette prière, aucune concentration, aucune dévotion, aucune concentration, sauf si je m'efforce, je me fais violence pour rester concentré, ce qui est déjà pas mal, mais la vraie concentration, ce n'est pas celle qui s'obtient en se faisant violence. La vraie concentration, c'est celle qui s'installe tout naturellement quand je lis ou j'écoute le Coran, parce que mon cœur est percé par la beauté du Coran, mais pas uniquement la beauté, par la beauté du Coran et par la profondeur du sens. Si c'est uniquement par la beauté, ça veut dire que si j'ai un imam qui lit d'une façon moyenne, je ne vais pas accrocher, ce qui est totalement erroné aussi. Par la beauté des versets, mais également surtout par la profondeur du sens, ce qui implique une recherche de connaissances religieuses. Je le dis, je le répète depuis avant, le Ramadan, on le dit régulièrement dans les programmes de tafsir, et pour ceux qui suivent régulièrement les durous du mois de Ramadan, on le répète sans jamais s'arrêter, et on le fera jusqu'à notre mort, incha'Allah, et qu'Allah nous tawfiq à nous-mêmes d'aller de ce sens, et de nous permettre de le faire, ikhwani akhawati fillah. Si on veut progresser de la religion sur des bases solides, si on veut que nos bonnes œuvres s'installent de la continuité, c'est-à-dire istiqama, et que ces bonnes œuvres soient bien ancrées avec sincérité, et qu'elles soient embellies par la dévotion, la concentration, l'esprit de sacrifice, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, les amalul quloub, ça doit transiter obligatoirement par l'étude des versets du Coran. Et je reste dans l'exemple de la salat, bien malheureux, ce mu'min qui lit Al-Fatiha de sa salat sans en comprendre le sens et le tafsir, le ma'na al-ayat, les ma'ani al-ayat et le sens des versets. Ce serait vraiment dommage, ce serait se priver d'une richesse inestimable qu'Allah nous a accordée au profit d'une lecture vide de sens pour nous. Ikhwani akhawati fillah, ce Ramadan confiné doit provoquer en nous un changement, passer un cap dans la spiritualité, aller vers le Coran, vers le sens des versets, lisez le tafsir d'Ibn Kathir en français, lisez le tafsir d'As-Sa'di en français et les autres qui ont été traduits. Si vous êtes à l'aise en anglais, il y en a beaucoup plus cette fois-ci de traduction de tafsir, et si quelqu'un a des affinités avec la langue arabe, mashallah, c'est... Tout est ouvert pour vous, bi-idhnillah, mais ne restons pas sur une lecture basse. Allons vers afala, vers le tadabbur, comme Allah nous le demande à plusieurs reprises dans le Coran. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Pourquoi ne médite-t-il pas sur le sens des versets? C'est le devoir de chaque mu'min et chaque mu'mina. Bon, il nous reste 10 minutes, mais je pense que cette introduction était nécessaire. Et je fais une petite parenthèse, peut-être que je crains qu'il y ait pour évacuer les incompréhensions, quand je dis qu'il n'y a pas de ilham, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas que quelqu'un se réveille le matin et qu'elle a la connaissance infuse, la connaissance religieuse de son cœur. Non. Ça transite par l'apprentissage. Et quand je parle de tafsir, je fais bien attention à ce que je dis. Lire le tafsir, mais à un moment donné, quand on voit qu'il y a une complexité, on s'en réfère à un savant, un alim. Comme cette personne a fait hier, m'a posé une question, avec le savant avec qui on a des affinités, le faire. Et ne pas se dire qu'on ne peut pas être autodidacte dans la religion. On ne peut pas être autodidacte. C'est pas que je lis, je comprends l'intégralité et je suis capable de trancher. Non, parfois il y a des synthèses à faire, des comparaisons. entre les versets pour comprendre le sens général qui en ressort. Parfois, on peut avoir des versets révélés à Mecca et d'autres révélés à Médina, et ceux de Médina seront prioritaires pour telle raison. Donc, il y a quand même il y a un niveau de compréhension qui est nécessaire. Mais je veux dire qu'à un niveau basique de compréhension basique pour des, par exemple, pour tout ce qui est la conviction, la conviction en Allah, pour trouver la concentration dans la salat, le tafsir d'Al-Fatiha et des 10 sourates de Amma ou des passages qu'on lit, ben, à mon humble avis, c'est suffisant pour déjà développer un autre niveau de spiritualité. Et pas de ilham aussi, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas une personne qui peut dire que je connais des choses qui ne se trouvent pas dans le Coran et dans la Sunna. Abadan wallah. La wallah il-azim. Je jure par le créateur des cieux et de la terre, par Rabbul Arsh al-Karim, par Rabbul Ka'ba, qu'aucune personne ne peut dire que je connais des choses qu'il n'y a pas de le Coran ni de la Sunna. Ce serait une offense à l'attention du prophète alayhi salatu wassalam, parce que comment est-ce que quelqu'un pourrait dire que je connais ce que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu même de la part d'Allah? Ça, c'est impossible. Donc, le ilm, c'est le ilm nafi' qui découle de la parole d'Allah et de la parole de Al-Habib Muhammad Mustafa alayhi afdalu salat wa atammu taslim. Et c'était le manhaj, la façon d'étudier la connaissance religieuse des sahaba, des tabi'in, c'est-à-dire la génération après eux, des atba'in tabi'in, de la génération après les tabi'in, et des ce qu'on appelle les ulama ashab al-qurun al-mufaddala, ceux qui ont appartenu au siècle les plus importants de l'islam. C'est ce que le prophète m'avait dit, khairul quruni qarni, la meilleure des générations, qarn, ça se traduit par génération, mais siècle aussi, mais plutôt génération, la meilleure des générations est la mienne, c'est-à-dire lui avec les sahaba, thumma alladhina yalunahum, ceux qui viennent après, thumma alladhina yalunahum, et ceux qui viendront après. C'est dans ces trois générations qu'on va retrouver les bases de la connaissance religieuse. Et les grands savants ont vécu à cette époque, ou alors ils ont pris la connaissance des savants directement ou par un intermédiaire très proche, donc des savants de ces, moi j'appelle ça les trois glorieuses, les trois générations exceptionnelles illuminées par le Wahi Hada. Et on a besoin de prendre ce chemin pour qu'on ait une religion qui est solide et qui résiste à vent et marée, à péché et fitna. Une religion qui nous permet même de lever la tête quand on est accablé d'épreuves et quand plus personne ne comprend qu'est-ce qui se passe. Mais nous, jamais on ne faiblit, jamais on baisse les bras, jamais on manque de confiance en Allah, jamais on ne doute sur la sagesse d'Allah dans ses décisions, parce que c'est ce qu'on a lu, « wa huwa al-hakim al-khabir », parce qu'on a une conviction inébranlable en Allah. Ce n'est pas une religion que j'ai appris uniquement au maktab, à la madrasa ou avec mes parents, c'est une religion que j'ai compris et intégrée, que j'ai pu obtenir à la source avec des savants, à la lumière du Coran et de la Sunna, donc j'ai une conviction au plus profond de mon cœur. Permettez-moi une parenthèse, un parallèle. J'ai l'impression qu'on ne fera pas de tafsir aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Un des événements les plus compliqués de l'histoire de l'islam, et mon public me manque, ces frères qui sont avec moi, permettez-moi de citer leur nom, « Fa aina Hudhayfatu, wa aina Abdurrahman, wa Salihu, wa Faisalu » et toutes ces personnes qui, ou Anwar, et d'autres dont les noms ne me reviennent pas, ou Shafi, ou Latanié, et d'autres encore, que j'aime beaucoup en Allah, et que j'espère retrouver très bientôt, Inch'Allah. À eux, j'aurais posé la question, et attendu une réponse. C'est un des événements les plus perturbants, les plus troublants de l'histoire des Sahaba. On ne va pas dire l'histoire de l'islam, c'est trop vague, mais de l'histoire des Sahaba, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y en a eu, il y a eu par exemple l'épreuve du cœur à Badr, quand ils savaient il y avait combien de cavaliers, de combattants en face d'eux, et il y a eu les difficultés à Uhud, et ainsi de suite. Bien sûr, il y en a eu énormément. En fait, la vie du Prophète, c'était une vie d'épreuves, plus que les autres Anbiya, alayhi salatu wa salam. Mais il y a eu un événement particulier, où balaghatil qulub al hanajira, où les cœurs étaient profondément perturbé, c'était la fameuse bataille de Al-Ahzab, la bataille des coalisés, où les Quraysh s'étaient alliés à grand nombre de tribus arabes qui n'avaient pas encore accepté l'islam autour de Médina, et à une des tribus alliées aux musulmans parmi les gens du livre qui habitaient à Madina pour combattre et en finir définitivement avec l'islam. Donc ils ont assiégé la ville de Madina et au sein de Madina, il y a eu la révolte d'une tribu pourtant qui était alliée aux musulmans. Donc c'était une situation très complexe. Et dans cette situation extrêmement compliquée, les munafiqines, les hypocrites, eux ont douté, ont eu peur et ils ne comprenaient pas. Comment est-ce que on peut arriver à une telle situation? Lorsque le prophète alayhi salat wa salam creusait les tranchées avec les sahaba, et ça prouve que le prophète aidait les sahaba dans toutes les tâches, et le prophète en fracassant des pierres, Allah lui a donné cette vision. Lui, il peut recevoir cette vision de la part d'Allah. Il a vu les palais de Kisra et de Qaïsar, de César et de l'empereur de Faris, des Perses, qu'Allah allait lui ouvrir ses portes et l'annoncer, la bonne nouvelle aux sahaba. Et les hypocrites, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Comment est-ce que Mohammed, alayhi salatu wassalam, peut-il penser qu'il atteindra un jour César et l'empereur perse alors que nous sommes nous-mêmes asphyxiés à Médine et qu'on n'arrive pas à se défaire de ce siège qui dure depuis plusieurs jours? On va peut-être tous mourir là dans un jour ou deux. Et lui, il nous parle de César et de Kisra. C'est que ces personnes n'avaient pas eu la profondeur de la foi. Alors que les sahaba, certainement, ils ont eu peur. Parce que la peur fait partie des sentiments humains, les plus naturels. Et parfois, la peur nous aide à nous dépasser, à accomplir des choses extraordinaires. Mais les sahaba, eux, avec l'éducation qu'ils avaient reçue de An-Nabi alayhi salat wa salam, ils n'ont pas douté une seconde de la promesse du prophète alayhi salat wa salam. Et ils n'ont pas douté une seconde de la puissance d'Allah et de sa sagesse divine, de la hikmah d'Allah et du fait que Allah est ala kulli shay'in qadir. Et ça, ça rejoint notre tafsir. Wa yamsaska bi khayrin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de tout et tout est dans ses mains. Et c'est lui qui contrôle. Même si Médine est assiégée et Médine est même trahie par une des tribus au sein même de Médina, Allah est avec eux s'ils ont la foi et confiance en Allah et s'ils suivent, ils suivent l'enseignement et la méthodologie du prophète alayhi salat wa sallam, sa sunnah, ils auront l'aide divine, l'aide d'Allah azza wa jal, et ils auront la nusra même si les conditions de nusra, d'aide, ne sont pas réunies. Et ils avaient cette conviction inébranlable et Allah a montré à l'humanité que même si tout se referme, quand Allah décide d'ouvrir la porte, c'est la porte qui s'ouvre et les portes et c'est la guidée et c'est la victoire. Et Allah a envoyé son aide aux croyants lors de la bataille des coalisés. C'est une situation que nous vivons d'une certaine façon avec le confinement. Nous sommes assiégés, mais pas par des tribus ennemies, mais par un virus qui est lui microscopique, mais qui est exactement comme les Quraysh et les ennemis d'Allah, les ennemis du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient déclaré la guerre à Allah d'une certaine façon, les ennemis d'Allah étaient des créatures de Dieu aussi. Mais ces bactéries, ou plutôt on appelle ces virus, ce sont des créatures khalq min khalqillah. Ils nous assiègent, ils assiègent bientôt les cinq continents. Et ceux qui essaient de sortir, on parle de déconfinement, se rendent compte que c'est beaucoup plus compliqué. On parle de deuxième vague et Allah protège si après la deuxième vague, Allah nous protège d'un tsunami après ces vagues. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais intérieurement, notre cœur doit rester avec Allah. Et c'est une grande sagesse de notre Seigneur que ces situations atteignent le pic dans le mois de Ramadan. C'est-à-dire un moment où les cœurs vont s'orienter vers Dieu, vers Allah et uniquement vers Allah, et où je vais mettre en application Iyyaka na'budu. Certes, c'est toi et uniquement toi que nous adorons parce que nous prions pour Allah, parce que nous faisons le qiyam ou le tahajjud pour Allah, parce que nous jeûnons pour Allah, nous lisons le Coran, nous faisons le dhikrullah et ainsi de suite. Tous les a'mal, nous donnons l'aumône pour Allah. Mais maintenant qu'on renforce ce lien de ibadah plus que durant toute l'année envers Allah, nous devons aligner le Iyyaka nasta'in au niveau du Iyyaka na'budu. La confiance en Allah doit découler de notre adoration et de notre soumission à notre Seigneur. Si dans mon ibada, dans mon adoration pour Allah, il y a les qualités intérieures de conviction, d'humilité, de inkisar amamillah, de crainte de Dieu, d'amour pour Allah, le fait de s'appliquer parce qu'Allah nous voit et j'ai cette conviction qu'Allah me voit, j'ai toutes les qualités intérieures, automatiquement va naître ziyadatul isti'anati billah, une augmentation de ma confiance et ma conviction en Allah. Ça veut dire que mes a'mal vont alimenter ma confiance en Allah. Mon ibada va devenir la source d'alimentation de mon isti'ana, de ma confiance en Allah. Et c'est là toute la beauté et l'équilibre qu'il y a et la perfection de la révélation divine. Et tout ce que « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » peut nous apporter. Sachez, ikhwani khawati fillah, qu'il y a des savants qui ont écrit des ouvrages uniquement sur le lien entre « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Nous ne faisons que reprendre leurs écrits et leurs connaissances pour essayer de transmettre avec espoir que nous-mêmes en premier, nous essayons de les mettre en application dans nos vies. Ainsi donc, ce confinement et cette pandémie intervient durant ce mois béni et à mon humble avis, ça nous permettra à travers notre Iyyaka na'budu justement de développer la confiance en Allah et al-istislamu liqada'illahi wa qadari. Le fait d'accepter et de se soumettre à la décision divine dans tout ce qu'il décrète, c'est-à-dire dans le taqdir wa al-qadri. خيره وشره من الله تعالى. C'est ce qu'on a appris, les bases à la madrasa, à la maktab, que le destin, bien ou entre guillemets mauvais, c'est-à-dire le sens de affligeant ou difficile, vient d'Allah. Et c'est le verset عَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Des fois on veut quelque chose, on aime, mais c'est mauvais pour nous, et des fois on a peur, on craint quelque chose, on n'aime pas une situation comme celle que nous vivons, et peut-être qu'il y a un bien pour nous. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Et sachez que Allah sait tout. C'est lui qui est alim, qui connaît tout. Et nous ne savons en fait rien, pas grand-chose et presque rien. Et donc, ce wayyak anastain, nous devons de le développer. Et nous avons eu l'occasion de faire le parallèle dans ce verset et également fa'budhu wa tawakkal alayh de la sourate Al-Muzammil. Et As-Sa'di ibn Kathir disent que quand on adore Allah correctement, justement, la conviction et la confiance en Allah doivent suivre et doivent faire partie de l'apanage de l'apparence et des qualités du mu'min, qu'Allah nous accorde la possibilité de développer ses qualités. On n'a pas pu développer le tafsir sur l'an'am, on le garde pour demain incha'Allah. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, Allah s'adresse à qui? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que notre prophète a connu des malheurs, des épreuves. C'est mal traduit, hein? C'est mal traduit le mot malheur. Le prophète a connu des situations difficiles, des situations d'épreuves intenses qui a touché sa santé, qui a touché sa famille, qui a touché son autorité et sa façon de diriger la umma, et des épreuves, subhanallah, plus que tous les anbiya alayhim salat wa salam réunis, et des épreuves dont tous les prophètes ont été des épreuves qui ont touché tous les prophètes. On retrouve, on va dire, une synthèse et un mix, si je peux me permettre l'expression, de toutes ces épreuves dans la vie de l'Habib sallallahu alayhi wa sallam, avec une espérance, avec une vie qui était beaucoup plus courte, avec une vie courte de 63 années où il a vécu ce que Noah a vécu, ce que Isa a vécu. Noah a vécu en termes de patience et de persévérance de la da'wah, ce que Isa a vécu en termes de trahison de certains de ses proches, en termes de, et là je parle de munafiqin, bien sûr, des hypocrites, ce que Moussa a vécu par rapport à la sorcellerie, par rapport à des autorités, par rapport à des dirigeants injustes, ce qu'Ibrahim a vécu par rapport aux épreuves qu'Allah a envoyé, des épreuves qui touchent sa personne ou ses proches, des épreuves très lourdes, et de l'ensemble des Anbiya, alayhim salat wa salam, et en des années réduites par rapport à la majorité des autres prophètes, exception de Isa alayhi salam, notre prophète alayhim salat wa salam a dû vivre ces situations, et Allah a décrété, a voulu qu'il vive ces situations pour qu'il nous montre à nous, musulmans, la bonne réaction de foi face à l'adversité, afin que nous-mêmes, quand nous serons éprouvés par un petit pourcentage de ces épreuves, nous ayons avec nous Al-Qudwa et le Uswatun Hasana, le modèle prophétique dans la réaction face aux épreuves. Et je conclue par une claque spirituelle et culturelle pour moi-même et pour notre communauté, pour beaucoup de personnes. Nous avons une approche très culturelle et très traditionnelle de la religion qui se limite très souvent à l'habit islamique. Je parle pour les messieurs, c'est-à-dire que si je porte un, je ne sais pas comment il faut dire ça, un kafni, ou on appelle ça un bazou, ou un kandou, hein, chez nos frères comoriens, que j'aime en Allah, ou alors un thawb en arabe, peu importe la façon de dire, le vêtement long, si je porte un bonnet, ou un taqiya en arabe, ou en comorien, j'ai oublié, un kaftan, il me semble, je ne sais plus comment on dit, et si je porte ça, j'ai l'impression d'être le musulman, j'ai l'impression d'être fier. J'ai l'habit du croyant, mais ça ne fait pas de moi un bon croyant. Si je laisse grandir ma barbe, je pense que j'ai une certaine autorité de la religion. Parfois, c'est comme ça. Hein. On a parfois des approches très simplistes. Ça fait de moi quelqu'un qui est pas sunnat, pas aban, hein, comme on dit chez nous, qui suit la sunnat scrupuleusement. Et des fois, je me permets de regarder les autres de haut. Parce que j'ai kafni la barbe, comme on dit en créole, comme le bougna kafni la barbe, il s'en pulit. Ou alors il s'en lit au-dessus. Il se sent vraiment au-dessus spirituellement. La ilaha illallah, comment est-ce que le diable peut détourner les gens du droit chemin en les orientant vers des ruelles sans issue, en lui faisant croire que c'est bon, t'as ton kafni bonnet et ainsi de suite, tu es le disciple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abadan wallah. Certes, si tu t'habilles de façon pudique, tu accomplis ton devoir. Si frère en islam, attention qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Hein. La barbe, à mon humble avis, c'est au-delà de la sunna. C'est plus que la sunna, car le prophète n'a jamais rasé sa barbe et aucun de ses compagnons. Donc celui qui se raccourcit la barbe au-dessous d'une poignée, à mon humble avis, et c'est l'avis de beaucoup de savants, cette personne est dans le péché. Donc j'espère clarifier les choses, hein, d'accord. Mais pour autant, si j'ai une barbe d'une poignée de 2, de 3 ou même, parfois, comme on voit certains, une barbe qui, mashallah, est beaucoup plus longue, arrive au ventre, au nombril, d'accord, ça ne fait pas de moi un meilleur croyant que celui qui n'a pas de barbe. La différence entre moi et lui, c'est que moi, j'ai mis cette sunna, qui est plus que sunna, en pratique. Et lui ne l'a pas mis. Mais, si j'ai une barbe, mashallah, florissante, mais que j'insulte ma femme au quotidien, je lui manque de respect. Je n'ai aucune compassion pour elle. Je traite mes enfants comme des étrangers. Et que dans mon travail, j'insulte mes employés. Je ne vais pas honorer mes engagements par rapport à leur salaire, aux heures supplémentaires. Je n'ai pas un bon akhlaq envers eux, envers mes parents, mes voisins, et ainsi de suite. Si j'ai cette barbe florissante et la tenue islamique, entre guillemets, correct. Et ça peut être pour les dames aussi, hein. D'accord? La femme qui se couvre correctement, je recadre directement, se couvrir les cheveux, c'est impératif. D'accord? Ça ne fait pas de ce discours un discours extrême. On se réfère au texte, se couvrir les cheveux, il y a des textes qui vont de ce sens. Maintenant, la femme qui se couvre correctement, de façon pudique, elle a accompli une action et elle s'est acquittée d'un devoir par rapport à celle qui ne le fait pas. C'est-à-dire que dans ce registre, elle a 20 sur 20. Par rapport à l'autre qui ne le fait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est au-dessus des autres. Parce que Allah seul peut juger. Allah seul connaît ces cœurs qui saignent, qui sont éprouvés par des situations que la personne qui pense être au top de la religion, elle ne le vit pas. Par rapport à sa famille, par rapport à des maladies. Allah seul connaît en finalité comment on meurt et comment on se présente à lui le jour de Qiyama et quelle est notre place attribuée. Ce n'est pas un être humain qui peut dire que lui il est meilleur qu'un tel, lui il est niveau 10, lui niveau 9, niveau 3, aucunement. Ittaqullah, ne jugez personne, Allah est le seul juge et c'est là-haut qu'on va savoir qui a été accepté. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des devoirs, des engagements, on doit les faire au mieux. Et la pudeur concernant l'homme,
et la femme, ça fait partie des impératifs qu'on doit accomplir. Maintenant, celui qui le fait n'est pas supérieur de façon globale à l'autre quand Allah seul le sait. D'accord? Donc, ça peut être cette femme aussi qui se couvre, mashallah, mais qui en même temps, je donne un exemple, hein, elle a un commerce, chef d'entreprise ou elle a un cabinet de je ne sais pas quoi, et quand elle a besoin de d'agrandir ou ce monsieur a besoin de d'acheter un fonds de commerce, il va à la banque et il signe un prêt avec, je ne sais pas, 3%, 4% d'intérêt, je ne sais même pas c'est quoi les taux, riba. Alors qu'il a l'apparence du mu'min salih, ben on va dire qu'on a tout faux. Et c'est très souvent notre approche qui est profondément culturelle. On va se limiter à certains points de la religion, mais on ne va pas au-delà. Quand ça nous arrange, on est très religieux. Et quand ça ne fait pas nos affaires, ça ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on entreprend, ben là on va vers d'autres pistes et on se trouve des excuses. Allah est pardonneur. Voilà, les époques ont changé. Là, voilà, revenons vers une religion qui est cohérente. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. La religion elle est parfaite, elle est complète. Revenons vers une religion cohérente, une pratique intelligente, certes adaptée au contexte. On sait ce qu'il faut faire, ce qui est possible, ce qui est complexe, mais on le fait avec sincérité pour Allah et on essaie d'analyser chaque jour de notre vie pour essayer d'avoir un comportement noble dans ma relation avec Dieu et dans ma relation avec l'ensemble des créatures et avec un cœur pur, de lequel il y a l'amour et la crainte d'Allah. Qu'Allah donne la possibilité de ce mois béni, de vivre la religion dans son intégralité, et de développer la spiritualité, et d'aller au-delà de notre approche culturelle, et d'arriver à une pratique qui est puissante, qui est sincère, où l'amour d'Allah sera dans nos cœurs, mais également l'amour des créatures d'Allah, comme le prophète alayhi salatu wasallam l'avait. Et à travers les épreuves, pour revenir à notre conclusion, le prophète nous a enseigné la sunna. Quand on a dit, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à là? C'est parce qu'on a cité les versets uswatun hasana, qudwatun hasana, le modèle prophétique. Ben nous on a pris le modèle prophétique uniquement sur les sunnat, les sunan de manger, le doigt qu'on lit, la façon de manger, on mange par terre, on mange avec les doigts, on fait avant de dormir les adab et les sunan. C'est magnifique ça, mashallah. Il faut le mettre en pratique, mais ce n'est pas suffisant. Ça c'est pas toute la religion. La religion c'est également aqida, tawhid, développer la notion de d'unicité, le monothéisme pur, connaître Allah, ses noms, ses qualités, les qualités de foi, parfaire sa foi, connaître Shu'abul Iman, les branches de la foi, connaître également le shirk, c'est quoi, le kufr, c'est quoi, les branches qui découlent du shirk et du kufr, et ainsi de suite, et les mahzourat, les péchés, tout ça. Ikhwan et akhwati fillah, prenons notre bâton de pèlerin et avançons durant ce mois béni pour comprendre la religion et la pratiquer dans son intégralité, correctement, en toute soumission envers notre Seigneur et avec le respect total des créatures d'Allah, musulmanes et non musulmanes, en respectant les ordres et les lois de notre pays. C'est important et c'est ça, c'est tout ça qui fera de nous un musulman qui est modèle, qui a un comportement correct et qui sera aimé par Allah, aimé par les créatures d'Allah et qui sera un motif d'admiration et de guider pour toute personne au tawfiq illa billah. Demain, incha'Allah, on ira directement vers le tafsir de la sourate Al-An'am. Wa yamsaskallahu bidurrin falakashifa lahu illa hu. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.